engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
La lutte pour mieux gagner leur vie et être davantage entendus et reconnus anime celles et ceux dont le travail est invisibilisé et peu rémunéré. La Rédac Pop est allée à la rencontre de Mia, escorte depuis 8 ans et militante pour la cause des travailleurs et travailleuses du sexe, dit TDS. Elle fait partie de ces militantes qui alertent sur la précarisation de leurs conditions de travail. Au travers de son discours, il s'agit d'arrêter d'ignorer, d'enfin discuter, de penser la complexité des expériences de vie des TDS. Le 13 avril 2016, le Parlement français a adopté un texte de loi venant sanctionner les clients des travailleuses et travailleuses du sexe. Un texte applaudi par des mouvements féministes abolitionnistes, mais qui n'a pas fait l'unanimité. Selon les explications apportées par Mia, plusieurs associations ont constaté que cette loi s'est accompagnée d'une criminalisation sous l'appellation de proxénétisme de tout soutien apporté aux personnes vivant du travail du sexe. Cette loi était censée retirer la charge de la culpabilité aux TDS pour la faire porter sur les clients considérés comme nécessairement exploitants. Mais, comme le prévoyaient plusieurs associations, le remplacement du délit de racolage par la pénalisation des clients n'a pas eu l'effet escompté. La nouvelle législation a eu un impact négatif sur la stigmatisation et les conditions matérielles des TDS. Dans cette émission, il sera fait usage du terme « travail du sexe ». Certains mouvements féministes y voient une euphémisation de la prostitution. Il s'agit, pour ces mouvements, d'invisibiliser une violence genrée spécifique, dont il faut réclamer l'abolition. Cette émission ne s'inscrit pas dans le mouvement abolitionniste. Vouloir abolir l'exploitation des femmes est une chose, mais risquer d'abolir la parole d'existence en est une autre. Cette émission travaille avant tout à recueillir le point de vue et la parole des personnes concernées. Ici, il s'agit de rapporter la parole de Mia, pour qui le travail du sexe est une activité professionnelle.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Bonjour Mia.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui, donc Mia, la trentaine plutôt avancée. Je suis escorte depuis 8 ans maintenant, ce qui veut dire que je travaille en cherchant des clients sur Internet et en les rencontrant en réel pour des prestations sexuelles. Donc, je suis militant pour la cause TDS depuis encore plus longtemps.
Là, cette émission, elle a pour but de parler donc des 10 ans de cette loi de criminalisation des clients. Et je voulais faire un peu l'état des lieux de cette loi, de ce qu'elle a changé dans le paysage législatif, mais surtout pour les travailleuses du sexe, travailleuses, travailleurs du sexe. Donc on dira TDS tout au long de l'émission. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut parler d'avant cette loi ? De quel était le cadre juridique avant la loi donc du 13 avril 2016 ?
Oui, donc j'ai pas connu l'avant de la loi, moi je suis arrivée juste après. Mais j'ai beaucoup de collègues plus anciennes qui m'en ont parlé, donc... Le cadre juste avant la pénalisation des clients, c'était la loi Sarkozy, surtout sur le racolage. Criminalisation des TDS elles-mêmes, surtout, qui touchait surtout celles qui travaillent en rue ou en bois ou enfin dehors, quoi, qui cherchent leurs clients dehors. Déjà, ça les forçait à travailler pas mal isolés, à se mettre en danger en évitant les zones... très fréquentées. En plus, dans les pays où le TDS est criminalisé, ça pose aussi beaucoup de problèmes en termes de contamination de VIH et autres IST, parce que par exemple, porter des capotes sur soi en quantité importante est une preuve d'exercice du travail du sexe. Donc par exemple, ça peut être une incitation à ne pas se protéger. Enfin, la criminalisation avait déjà beaucoup de soucis. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont un peu différents, mais voilà.
Et donc, arrive cette loi en 2016, loi qui a, de ce que j'ai vu, a amené beaucoup de débats, qui a amené 2 semaines ou moins de discussions parlementaires, et pour aboutir à donc la criminalisation des clients et plus des TDS. Quelles étaient les motivations et les arguments qui étaient avancés notamment par les défenseurs et défenseuses de cette loi à ce moment-là ?
Alors l'argument principal, c'est le report du charge de la culpabilité de la travailleuse sur le client. En considérant bien sûr que le client est forcément un abuseur, que le travail du sexe en soi est un abus, donc que le client est forcément coupable, moralement, légalement, etc. Et que les travailleuses seraient forcément des victimes de ce qu'on appelle chez les abolitionnistes le système prostitutionnel. Et donc vraiment sans agentivité finalement, des victimes d'un système. Et voilà, normalement, les travailleuses ne devaient plus être touchées par les peines, sauf qu'évidemment, si on criminalise les clients, bah, y en a moins. Ceux qui restent, c'est pas les plus respectueux des lois.
Ça, on va y revenir. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce système prostitutionnel dont tu as parlé ?
Ah oui, alors ça, c'est vraiment un terme d'abolitionniste. Donc les abolitionnistes, ceux qui veulent que le travail du sexe disparaisse. C'est comme quand on dit personne en situation de prostitution, on sait que c'est probablement un ou une abolitionniste qui parle. Nous, on parle de travailleuses, de prostituées, enfin, il y a beaucoup de termes, mais personnes en situation de prostitution et système prostitutionnel, c'est un peu des mots-clés de l'abolitionnisme qui présupposent d'une sorte de système tentaculaire et presque conscient qui abuserait des femmes, en fait. C'est un peu ça, le principe.
Comme si c'était subi, quoi qu'il arrive, par les TDS.
Oui, il y a vraiment l'idée qu'on est prostitué par quelqu'un, par quelque chose, mais qu'on choisit pas ça comme métier.
Je me suis beaucoup baladé sur Internet, j'ai trouvé pas mal d'articles qui revenaient sur les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans, blablabla, etc. Mais finalement, j'ai trouvé très peu de chiffres sur l'impact qu'a eu cette loi. Et les seuls que j'ai trouvés, j'en ai trouvé un donc, c'était sur Public Sénat, une association qui déclarait qu'elles avaient pu aider 538 personnes, donc très peu sur 5 ans de loi. Est-ce que tu peux nous faire un peu cet état des lieux des résultats de cette loi ?
Oui, parce qu'un des volets de la loi, c'est censé être le volet social d'aide à la sortie prostitution. Et on voit que ce volet a été finalement très peu appliqué. Donc les personnes qui veulent en sortir, évidemment, il faut les aider. Ça, il n'y a aucune polémique là-dessus, même chez les travailleuses volontaires. Mais on voit que les parcours de sortie ont été donnés au compte-gouttes, selon des conditions pas forcément accessibles, par exemple l'arrêt total de la prostitution, dans des conditions où le parcours de sortie au début c'était la moitié du RSA. Maintenant, oui, ça a été revalorisé RSA. Au RSA entier. Donc voilà, l'arrêt n'était pas possible, sauf qu'on demandait ça comme condition. Donc ça, puis bon, les dossiers jugés recevables sont aussi pas forcément très nombreux. Et sinon, dans l'impact du volet répressif, là, ça... Donc, comme je disais, ça a diminué le nombre de clients, ce qui fait que les TDS sont beaucoup plus précaires, peuvent beaucoup moins choisir leurs clients, parfois ne peuvent pas forcément imposer les protections parce que besoin d'argent, parce qu'ils sont... ils savent qu'ils ont le rapport de force dans la négociation, s'ils sont peu.
Il y a aussi quelque chose de l'ordre du sanitaire aussi, parce que du coup, moins de protection, parce que, de ce que j'ai compris, il y a eu quand même beaucoup de clients qui sont devenus insistants, estimant que la charge du risque pesait sur eux, et du coup, qui se sont mis à devenir plus insistants, voire plus violents, etc. Enfin, il y a tout ça aussi.
Dans le bilan, on constate une augmentation des transmissions d'IST, une augmentation des violences, une augmentation de la précarité. Paradoxalement, enfin ça peut sembler paradoxal, une plus grande difficulté à se reconvertir dans autre chose. Parce que pour ça, bah, il faut des moyens, il faut pas trop de stigmatisation dans certains cas. Donc, et d'ailleurs, on n'a pas du tout constaté de diminution du nombre de travailleuses. Ça, bah, c'est en constante augmentation et c'est normal vu que la précarité augmente extrêmement. Donc, on voit que le nombre de travailleuses n'est pas du tout défini par la demande comme le présuppose cette loi, mais simplement par la précarité, par l'impossibilité d'avoir un emploi, par l'impossibilité d'avoir des papiers, etc. Et donc l'angle de faire diminuer la demande pour faire diminuer l'offre, on voit que c'est une illusion complète.
Je voulais aussi revenir sur le parcours de sortie. J'ai vu qu'une des revendications qui était souvent avancée, c'était aussi le manque d'accès à des logements. Le fait que dans ce programme, aucun logement n'était proposé aussi. Et que j'ai vu que ça avait été une demande faite par beaucoup de... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, par beaucoup de personnes.
Oui, parce que le parcours de sortie pourrait, à la limite, maintenant qu'il correspond au RSA, suffire à la survie, pas forcément à l'épanouissement, mais à la survie, à condition de loger les gens. Avec un loyer, ça devient évidemment impossible. Enfin, ça, toutes les personnes... Oui, ça, je pense se rendre compte des difficultés.
Et un autre aspect, effectivement, tu en as parlé, c'est les difficultés de reconversion qui, qui, de ce que j'ai compris, sont dues à ce qu'on met derrière les TDS et le fait que avoir un statut légal, enfin, il est possible de se déclarer comme étant TDS, mais cela amène beaucoup de stigmatisation. Notamment difficulté d'accès aux banques, ce genre de choses.
Oui. Se déclarer comme travailleuse du sexe est possible. Et de toute façon, les TDS doivent payer l'URSSAF, etc. Se déclarer comme la plupart des travailleurs indépendants. Sauf que, en effet, se déclarer explicitement comme TDS est une très mauvaise idée. J'en ai fait les frais. Après. On peut se déclarer comme coach ou des trucs comme ça. Pendant un moment, il y avait art thérapeute, mais maintenant, c'est protégé comme appellation, il me semble. Mais si on se déclare comme TDS, ça veut dire que la banque n'accepte pas d'ouvrir un compte professionnel, voire menace de fermer les comptes personnels qui sont au même endroit. Le logement est illégal dans tous les cas, sauf à être propriétaire et de vivre seul, globalement. Parce que louer un appartement... Alors ça, c'est pas à cause de la loi de pénalisation des clients, c'est à cause de la loi contre le proxénétisme. Louer un appartement fait que le loueur, même si c'est des tarifs raisonnables, un loyer raisonnable, sera considéré comme proxénète, parce qu'il touche l'argent de la prostitution. Donc il n'y a aucun moyen d'habiter légalement sauf à être propriétaire. Sauf qu'être propriétaire demande parfois un prêt, le prêt complètement impossible. Enfin voilà, l'accès aux droits fondamentaux n'est pas du tout garanti en fait.
Et dans tous les textes qui ont été proposés, dans tous les textes de loi, etc., il y a vraiment une dynamique de lutte contre la prostitution qui est... Et en fait, là, je voulais revenir sur justement cette sémantique qui est utilisée, lutter contre la prostitution. Même au niveau des arrêtés municipaux, j'ai vu que c'est autant un combat contre au niveau national, mais aussi au niveau local. Je pensais à... alors, si je dis pas de bêtises, c'était la Coupe du Monde de rugby à Lyon.
Ah oui, Lyon, oui, voilà. Les arrêtés.
Avec les arrêtés municipaux qui ont été pris à ce moment-là contre la prostitution, contre les camionnettes. Enfin, voilà, ils expliquaient pour des questions sanitaires et des questions de sécurité la plupart du temps, mais voilà, qui s'inscrivent dans une dynamique de lutte contre.
Oui, puis Lyon, je me demande si les arrêtés n'ont pas été conservés au-delà de...
Ils ont été conservés, oui, ouais, c'est ça.
Oui, c'est une autre manière de lutter contre nous, ce qui prouve aussi l'hypocrisie de cette histoire de renversement de la charge de la culpabilité. Mais de toute façon, lutter contre, j'ai l'impression que c'est presque plus une question philosophique que législative. Enfin, ça, en tout cas, ça devrait. C'est-à-dire qu'il y a plein de collègues qui sont contre la prostitution en soi, qui seraient ok avec le fait que ça disparaisse et tout. On est quand même assez consciente du fait que une partie, alors vraiment pas toute, mais une partie de la prostitution est due à la grande précarité, au racisme, à des choses comme ça. Donc lutter contre la prostitution, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais dans ce cas, on lutte pas en faisant de la répression. C'est un peu comme la lutte contre la drogue. On lutte en faisant de l'accès aux droits, de la protection sociale, des choses comme ça. On peut lutter contre la prostitution subie à sa racine en donnant des papiers aux migrantes qui, du coup, pourraient avoir des recours d'autres emplois. En donnant... Alors moi, ça, c'est pas forcément la vie communautaire générale, mais moi, je suis très... ça les ravit de Friot, par exemple.
Ouais.
Et quand il y aura un revenu universel, ce sera vraiment un choix. Quand les handicapés seront à des niveaux de vie corrects, ce sera vraiment un choix, parce qu'on est quand même beaucoup d'handicapés, beaucoup de... Moi, c'est pas mon cas, mais de migrantes, beaucoup de personnes trans qui n'ont pas non plus beaucoup accès à l'emploi. Voilà, donc on peut lutter contre de manière pertinente, en fait. Et dans ce cas, on serait plus sur un conflit philosophique, mais vraiment de moyens.
Toi qui fais partie de tout un réseau militant, est-ce que vous êtes consulté? Et il y a aussi un truc dans cette question, est-ce que ce qui est ramené le plus souvent, est-ce que c'est pas la traite des humains, en fait, qui est un peu amené comme, j'ai l'impression, à un mur, en fait, et qui bloque toutes les conversations?
Oui, il y a deux murs, c'est la traite, évidemment, et les mineurs.
Mmh, c'est ça.
Et ça, on a une réponse toute simple, c'est qu'en fait, des lois existent déjà contre ces choses-là. Il y a les lois pour la dignité humaine qui pénalisent l'exploitation d'êtres humains, quelles qu'elles soient, parce que l'esclavage, c'est en grande majorité industriel, c'est pas du tout que sexuel. Et il y a des lois contre les interactions sexuelles avec des mineurs qui tombent sous... exploitation sexuelle, soit viol, je sais comment on dit en anglais mais pas en français, statutory rape. Ces choses-là sont déjà couvertes. Et quand on parle de travail du sexe, on parle pas ni d'esclavage sexuel ni d'exploitation sexuelle des mineurs, évidemment. Personne n'est pour ça.
Oui.
Même les TDS les plus convaincus de la joie de leur métier, etc., ne sont pas pour ça. Mais c'est des moyens faciles de faire de l'émotion, alors que législativement, ça n'a pas de sens de faire des lois d'exception en plus de ces lois-là pour nous pénaliser.
Est-ce que face à un discours comme ça, votre parole, elle a quand même eu un poids?
Je vais dire un truc très triste. Les seuls qui nous écoutent, c'est l'extrême droite. Et c'est pas du tout pour de bonnes raisons. Hein. Ouais. C'est parce que c'est des clients. Mais non. Alors moi, j'ai pas connu... Enfin, j'étais pas actif de manière institutionnelle à la période Aurore Berger. J'ai connu la période Marlène Schiappa, qui organise pendant l'université d'été du féminisme une table ronde sur la prostitution. Sans du tout inviter de concernés, on n'a même pas eu le droit de rentrer, elle nous a envoyé les flics.
Oui,
parce qu'on a fait un zapping devant pour protester un peu. Mais non, les voix qui sont très entendues, c'est celles de l'Amicale du Nid, du Mouvement du Nid, enfin, vraiment les personnes qui ont été très actives dans la mise en place et la conservation des lois répressives. Nous, c'est arrivé que le syndicat du travail sexuel, le STRAS, soit consulté de manière très anecdotique, mais ça va plutôt être des parties extrêmes. Alors, Anas Kazib nous a consulté, par exemple, et sinon, le RN, voilà. Et Zemmour voulait la dépénalisation aussi, mais encore une fois, parce que bon client.
Je vois. Avec tout ce qu'on, avec tout ce qu'on s'est dit, on a eu donc une loi 10 ans bientôt. À l'heure où ce podcast est diffusé, les 10 ans sont déjà passés. En 10 ans, il s'est passé pas mal de choses. et il y a des propositions pour changer cette réglementation. Voilà, il y a eu beaucoup d'analyses, enfin, j'ai même trouvé des articles sur Public Sénat qui disent que cette loi n'est pas très utile, ne sert pas à grand chose. Il n'y a que les procureurs de la République qui sont contents de cette loi parce que du coup, ça leur permet de coincer des proxénètes en interpellant des clients. Oui.
Non, c'est juste. J'interviens sur le terme proxénète parce que, en fait, la plupart des proxénètes condamnés ne sont pas des hommes méchants qui font travailler des femmes, etc. Ce sont les travailleuses elles-mêmes. La loi de proxénétisme condamne toute entraide et tout bénéfice tiré du TDS. Donc, comme je disais, les propriétaires, mais aussi l'entraide entre nous, si je dépanne des capotes, etc. Et alors, j'ai pas les chiffres français, mais il me semble les chiffres irlandais, c'est que la grande majorité des proxénètes condamnés sont des femmes travailleuses du sexe.
D'accord.
Et je crois environ 50% de migrantes parce qu'elles dépendent énormément des réseaux d'entraide justement communautaires.
Bon, c'est bon à savoir. Il y a aussi les conjoints qui peuvent être considérés comme proxénètes.
Les conjoints, les enfants majeurs, toute personne qui va avoir finance commune avec une travailleuse, de toute façon, ce serait proxénète.
Ce serait tirer un quelconque profit de...
Oui,
ouais, c'est
plus... oui, même s'il n'y a pas d'abus, même si c'est partage de salaire.
Effectivement, tu fais bien de le préciser. Avec tout ça, je me posais... Tu as commencé à en parler, justement. Je voulais parler de cette proposition de loi qu'on a vue arriver, notamment dans un article du journal Le Monde, en décembre 2025, du RN Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui propose de créer des lieux coopératifs tenus par des TDS elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi ? Moi, j'ai vu cet article, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment est-ce que, déjà, le RN peut parler d'autogestion ? Enfin, voilà, déjà, il y avait ça.
Oui, pourquoi il faut une proposition vaguement de gauche ?
Oui, voilà, déjà, je suis... Donc, ma première question, c'est, et tu as commencé à y répondre, c'est pourquoi est-ce que le RN semble être un des grands alliés des TDS ?
Mais Jean-Philippe Tanguy, déjà, c'est quelqu'un qui a été proche du STRAS, donc
oui,
le syndicat.
C'est ça.
Je pense qu'il y a un vernis très positif à cette proposition. Bon, déjà, ça a fait parler. Donc,
oui.
Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, voilà, ça a fait parler. Le vernis positif, c'est vraiment cet aspect bizarrement de gauche de dire il n'y aura pas de patron, c'est vraiment des coopératives, c'est les travailleuses entre elles qui s'organisent et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'en effet, on réclame de pouvoir... Enfin, parce que louer un lieu pour travailler en sécurité à plusieurs... Enfin, louer un lieu à plusieurs pour travailler en sécurité, c'est quelque chose qui nous éviterait énormément de violence et qui, pour l'instant, tombe également sous le coup de la loi contre le proxénétisme. Donc vraiment, c'est en effet proche de nos revendications, pas complètement. Par contre, ça arrête le RN, c'est une loi raciste. Les personnes qui pourront prétendre à ces coopératives, etc., il faudra qu'elles soient encartées, il faudra qu'elles soient fichées, déclarées, etc. Bon, déclarées, je comprends.
Oui.
Si on n'était pas pénalisé, je voudrais pouvoir me déclarer et payer
des
impôts comme tout le monde.
Du coup, ça suppose de potentiellement avoir un titre de séjour.
Avoir un titre de séjour et les critères. Dans certains pays qu'on réglementarisé comme ça... réglementé comme ça, il y a des critères qui sont pas forcément évidents, mais par exemple le fait d'être une femme sur son état civil. Alors je dis pas que ça fait partie de leur proposition, mais juste pour dire faites attention à la réglementation parce que les conditions sont parfois racistes, transphobes, etc. Ou sexistes tout simplement, parce que pourquoi les hommes cis ne pourraient pas exercer? Donc voilà, on soupçonne quand même beaucoup d'hygiénisme et de racisme dans la proposition du RN. Après, aucun texte n'a été émis.
Oui,
ça a été vraiment une proposition dans un article du Monde, enfin quelque chose d'assez vague.
Ils disaient qu'ils étaient en train de décrire une proposition de loi qu'ils voulaient déposer. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien eu.
Comme ça, dit en des termes vagues, etc., ça ressemble à une avancée. Mais déjà, est-ce que cette avancée très partielle et qui concerne seulement une petite partie de notre population ne servirait pas à freiner tout le reste de nos revendications, c'est-à-dire vraiment une pleine entrée dans le droit commun. Et puis, encore une fois, le racisme. Voilà.
Oui, parce que du coup, ça me permet de te poser une question. Donc, parmi les TDS, donc 88% seraient des femmes. Et parmi ces 88%, 95% seraient des personnes étrangères. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ces chiffres? Parce que les sources sont assez vagues.
Alors, le chiffre sur les femmes, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ce chiffre-là. Par contre, le chiffre sur les personnes étrangères, on a réussi à remonter le fil, difficilement parce que c'est beaucoup d'articles qui s'entrecitent, etc. Mmh. Ça fait des références circulaires. Mais en gros, on suppose que ce chiffre vient du taux de personnes étrangères parmi les femmes travaillant en rue qui ont été arrêtées pour racolage.
D'accord, ok. Donc effectivement, ça ne regroupe pas tout ce qu'on met derrière les termes prostitution, TDS.
Non, sachant qu'une personne blanche a moins de chances d'être arrêtée,
oui.
Que énormément de la prostitution est passée sur Internet, et puis que ça reste des chiffres détournés de leur fonction première. Mmh.
Mais du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur le RN. Est-ce que c'est pas pour le RN, pour l'extrême droite en général, parce que tu as parlé de Zemmour aussi, est-ce que c'est pas un moyen de faire une chasse aussi aux étrangères, pour le coup, et justement en instrumentalisant ce chiffre, en le retournant de manière très vague et pour à terme en fait être plus, non pas dans un soutien au TDS, mais plus dans une politique anti-immigration.
Mmh. Bah ça, c'est notre soupçon, même si ça reste un soupçon, c'est quand même un soupçon assez pertinent, je pense.
Mmh.
Après, c'est pas forcément un chiffre qui est utilisé par l'extrême droite. La plupart du temps, il est utilisé par des personnes de gauche molle, etc., qui veulent abolir le travail du sexe. C'est vraiment ce que nous oppose tout le temps l'institution, quoi.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui est repris comme parole d'évangile, alors que vraiment, c'est sorti de nulle part. Il y a d'autres chiffres comme ça. Il y a le soi-disant chiffre de l'entrée dans la prostitution qui serait entre 13 et 14 ans, c'est pareil, ça dépend. Donc on sait d'où il vient aussi. Il vient d'une étude sur une quarantaine de personnes mineures dans un centre justement pour mineurs en difficulté.
Mmh.
Et il a été extrapolé à l'âge d'entrée dans la prostitution de manière générale. En plus, c'est aux États-Unis. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui
d'accord.
va. Et évidemment que ça n'allait pas être un chiffre au-delà de 18 ans puisqu'il a été mesuré dans un foyer pour mineurs.
Oui.
Enfin voilà, les chiffres utilisés contre nous sont perpétuellement sortis d'études obscures et très peu scientifiques.
Mmh.
Et y a le chiffre sur nos morts aussi. Notre espérance de vie est de 34 ans, donc je suis un survivant. Et en fait, ce chiffre a été pris sur une cohorte de personnes mortes, donc on n'a pas compté les vivantes.
Ce qui est assez bizarre.
Et pareil, il a été pris dans des centres pour personnes addictes par injection.
D'accord.
Voilà. Donc, et c'était les morts générales, sachant que même les morts tués par le conjoint ont été comptés. Enfin, vraiment, c'est très largement.
Ouais, au doigt mouillé, quoi. Là,
énorme doigt mouillé.
Okay.
Et après, c'est un chiffre qu'on nous ressort perpétuellement en France comme quelque chose qui viendrait d'une étude scientifique.
Et on a des sources fiables auxquelles on peut se référer, parce que en faisant des recherches, on tombe sur des chiffres, la plupart sont pas, on n'a pas les références, et là, de ce que tu nous dis, on a très peu de chiffres qui ont l'air exacts, en fait.
Je conseillerais, par exemple, le livre de Lilian Mathieu, « Les prostituées et leurs bienfaiteurs
».
Donc, nos bienfaiteurs, ce sont les abolitionnistes, merci à eux. Lilian Mathieu a beaucoup travaillé sur les chiffres, alors il ne faut pas l'interroger dessus parce qu'il en a marre d'en parler, mais ses livres sont très parlants.
Mmh.
Et sinon, l'étude la plus à la fois large et récente qu'on ait, c'est une étude conjointe entre plusieurs assos, mais il me semble chapeautée par Médecins du Monde, qui a fait un bilan de la loi. Donc ça date déjà d'il y a quelques années, mais c'était en réponse à un bilan complètement foireux, fait par les institutions, et donc on a fait notre propre bilan. Puis voilà, c'est les chiffres les plus pertinents qu'on ait pour l'instant sur la sociologie des TDS, etc. Après, ça reste un public très difficile à mettre en statistique, étant oui. donné que forcément les gens se cachent beaucoup. Mais grâce aux assauts de terrain qui ont des files actives avec une population beaucoup plus large que celle qui est politisée et militante, etc., on arrive quand même à avoir des chiffres de terrain un peu pertinents. Et on réclame à corps et à cri pour les 10 ans de cette loi une évaluation large et objective. Quoi. Vraiment, mmh. on demande une étude de terrain sur les effets de cette loi.
D'accord. On a parlé de l'extrême droite, il faut qu'on parle de la gauche dans tout ça. Quelle est la position majoritaire qui ressort je vais pas parler, on peut parler du PS si tu veux, mais je pensais plus à des corps comme LFI.
Alors moi je connais surtout LFI en effet, parce que j'ai essayé de faire du lobbyisme à l'intérieur de LFI, de l'entrisme pute. Mmh. C'est pas top. C'est-à-dire que les personnes en situation de pouvoir dans les partis de gauche sont généralement abolitionnistes, pour notre bien, évidemment. Oui. On parle d'abolition du travail, mais alors surtout le nôtre. Hein. Et PCF, pareil. Enfin, le, mmh. voilà. Par contre, la base militante mmh. n'est pas forcément abolitionniste. Ça, j'ai pu le constater. Et souvent, c'est plus les pôles LGBT qui vont être pro-droit et qui vont poser nos revendications, alors que les pôles égalité homme-femme, déjà, il y a tellement à redire sur cette appellation. Enfin, là, je parle des LFI, vont être plus classiquement abolitionnistes, avec parfois même des bénévoles du NI qui sont à l'intérieur, des vieux mecs cis, enfin mmh. bref.
Et c'est quoi le point de vue, enfin, c'est quoi les arguments qui sont avancés par.
Encore une fois, c'est la victimisation.
Ah
c'est,
oui, d'accord, on n'est pas sur.
L'infantilisation totale. Okay. On est victime.
On n'est pas sur une libéralisation du travail, ce genre de choses.
Alors, un argument qui est utilisé contre nous par l'avocate d'Uni, par exemple, qui est vraiment notre boss final en France, c'est justement que nous serions des ultra-libérales.
D'accord.
Alors que, bon, je nous vois plutôt comme anticapitalistes, en tout cas, le microcosme que je fréquente. Mm-hmm. Mais voilà, mais je comprends aussi cet argument, déjà parce qu'il est très malin, et aussi parce que un des leviers qu'on a pu essayer d'utiliser au niveau institutionnel, donc auprès de la CEDH, auprès du Conseil constitutionnel, etc., c'est la liberté d'entreprendre, étant donné que visiblement toutes les violences qu'on subissait n'étaient pas un levier supplémentaire, mais la liberté d'entreprendre, ça c'est quelque chose qu'on défend. Donc c'est un levier qu'on a essayé d'utiliser dans une forme d'utilitarisme, etc. C'est pas mmh. forcément notre idéologie. On aimerait bien la liberté d'avoir un vrai choix. Mais donc voilà, ça nous est un peu retombé dessus parfois dans la qualification d'horribles personnes ultra-libérales.
D'accord. Et justement, tu as parlé de la CEDH et du Conseil constitutionnel. J'ai vu qu'il y avait eu un recours qui avait été déposé auprès de la CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme, qui avait été déposé en 2023, justement contre cette fameuse loi de 2016. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en a été, le résultat de tout ça, et qu'est-ce que la jurisprudence, du coup, elle vient dire de cette loi ?
Alors, j'ai vraiment pas assez de connaissances sur le principe de jurisprudence, donc ça, je vais dire des bêtises, je pense. Par contre, on a été refusé. Enfin, la CEDH nous a débouté, ouais.
D'accord.
Ça a été très triste.
Sur quel motif ? Tu t'en sais un peu plus ou pas du tout ?
J'ai pas envie de faire. Non, je risque de dire des bêtises.
Moi, j'irai vérifier.
Truc que j'ai pas potassé, ouais, okay. J'ai pas envie de dire de bêtises.
Ça marche. Aujourd'hui, quelles sont les revendications de ton mouvement ? Toi aussi, à titre personnel, si elles diffèrent un peu de ton mouvement ?
Mes revendications, non, sont assez cohérentes avec la communauté. Par contre, moi, je travaille dans l'association Médecins du Monde, et là, c'est un peu différent. Médecins du Monde est vraiment accès aux droits. Et pas forcément anticapitalisme, par exemple. Mais les revendications communautaires sont très communément partagées. C'est la dépénalisation des clients, évidemment. L'abolition de la loi contre le proxénétisme, étant donné qu'elle fait doublon avec des lois qui vise vraiment les abus et qu'elle touche en fait des travailleuses. Pour ce qui est du travail, une entrée dans le droit commun avec les mêmes protections sociales que les autres. Voilà, après il y a des subtilités qui sont intéressantes, par exemple dans ce qu'on fait la Belgique. Alors la Belgique en ce moment, c'est pas aussi le rêve qu'on aurait pu le croire, parce qu'ils ont dépénalisé en 2022. Et il y a quand même une des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut choisir son statut de travailleur. Si on veut, on peut se salarier, on peut faire des coopératives, on peut être indépendant. Enfin voilà, il y a quand même un éventail de choix. Ça, je trouvais que c'était une très bonne chose. Tant évidemment que c'est protégé de l'abus. Enfin, le salariat peut évidemment être un abus, mais là, il me semble qu'il y avait eu quand même des protections. La loi reste raciste. Hein, peut-être pas en Belgique, mais par exemple en Nouvelle-Zélande où c'est dépénalisé, c'est que pour les personnes natives.
D'accord.
Il me semble. Ou en tout cas, pas immigrés. Mais voilà, donc dépénalisation, abolition de la loi proxénétisme. Et j'imagine. C'est à peu près tout en fait. C'est très large finalement, mais ça se résume en peu de mots.
Tu m'en parlais. Un texte va être proposé donc aux parlementaires.
Oui.
Un texte est en préparation. Et est-ce que tu peux nous en parler du coup ?
Oui, alors le texte n'étant pas fini, je n'ai pas encore pu le lire, et parce que là, à l'heure où on parle, c'est encore un secret. Mais on fait une proposition de loi qui est portée par une députée.
D'accord.
La proposition a été façonnée avec des scientifiques en sciences sociales, la communauté, des politiques du coup. Pour essayer de... On n'est pas que dans le contre, on a vraiment des solutions législatives, des solutions sociales. Et on est relativement experte de notre domaine. Donc là, le principe, ce serait que pour une fois, ce soit un peu fait avec nous. En Belgique, ça a été fait pas mal, la décriminalisation, c'est beaucoup fait en partenariat avec le syndicat Utsopi, qui est leur équivalent Stras.
D'accord.
Et là, on essaye de reprendre la main sur ce qui nous concerne, finalement, en faisant cette proposition de loi. Alors, c'est même pas sûr qu'elle soit étudiée, d'après ce qu'on m'a dit.
Oui.
Ça, je connais pas très bien les subtilités législatives.
Ça, c'est le jeu parlementaire où, en gros, il faut la mettre à l'ordre du jour et du coup, ça passe par un vote, etc.
Mais on sera le 13 avril 2026 au Sénat pour la déposer, la défendre. On fera un colloque, etc. sur plein de thèmes. Et le 14 avril à Sciences Po, mais il n'y a plus de place. J'espère qu'on va au moins nous écouter, même si...
C'est une sénatrice, du coup ? Sénatrice...
Députée.
Députée ?
Je crois.
Ok.
C'est ça, hein ? On peut déposer une loi avec une députée ?
Oui.
C'est ça.
Ok, députée, d'accord. Et de quel bord politique ? Je suis curieux.
Oh, je sais pas, j'ai pas fait mes devoirs.
Ah, ok. Ok.
J'imagine qu'elle est de gauche, hein, parce que...
Oui, j'imagine, te connaissant.
On travaille assez peu avec... Pas la gauche, même si on les a rencontrés.
Ok. Et est-ce que tu avais des choses à ajouter ? On essaiera de mettre les liens, le plus de liens possible sur cette fameuse proposition de loi, sur son cheminement législatif et parlementaire. Mais est-ce qu'il y avait des choses à rajouter par rapport au devenir de cette loi et de la situation actuelle ?
Alors, pas directement par rapport à la loi, même si évidemment tout est relié. Mais juste sur le fait de conditionner l'accès au droit à une sorte de choix de libre arbitre total qui serait la seule bonne manière. Et juste appuyer sur le fait que dans une société capitaliste, dans une société raciste, etc., ce libre choix n'existe pour personne, et donc pas non plus pour nous. Par contre, on peut faire avec les cartes qu'on a. Moi, par exemple, en tant que Français de naissance, Tout ça, mais handicapé, je n'ai pas forcément accès à l'emploi. Donc le choix que j'ai fait est un choix rationnel par rapport aux cartes qu'on m'a dealées. J'aurais pu ne pas faire ce choix avec une société anticapitaliste. Après, moi, il me convient très bien, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, cette notion de libre choix qui devrait conditionner si on a des droits ou pas, il n'y a pas de lien logique, en fait. Il n'y a pas de lien philosophique. C'est vraiment une sorte de moralisme bizarre. Et on ne demande pas à une poissonnière si elle aime son métier. On n'exige pas qu'elle aime son métier. Enfin, le fait de... qu'on n'ait pas le droit à des côtés négatifs à notre métier, qu'on doive être forcément dans l'empowerment tout le temps pour faire du militantisme, dans la joie la plus totale. Mais ça reste un métier, c'est quand même très concret. Je gagne ma vie, je gagne de l'argent, je gagne de quoi manger. Enfin, c'est vraiment cette condition au libre arbitre, comme si le libre arbitre existait, qui m'énerve un peu.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mia.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vous la retrouverez en intégralité sur le site internet laredacpop.com. Vous retrouverez également sur ce site un article retraçant les thèmes abordés dans cette émission, ainsi que des liens si vous voulez continuer à vous informer.
Les entreprises ruinées, les familles divisées, les gens sont fatigués, fatigués de faire face. Les gens sont fatigués, fatigués de faire face. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il faut être avisé, sans dramatiser, dur de pas se faire zombé. Zombé, 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 zombé. À la pompe, faut mettre le carburant et tu sens que l'on te trompe, c'est sûr. On t'a zambé, on t'a zambé. Va faire tes courses, passe à la caisse. T'as presque rien acheté, mais ton ticket fait mal aux fesses. On t'a zambé, on t'a zambé. Fais voir ton nouveau téléphone qui fait l'internet et la télé et tes points fidélité. On t'a zambé, on t'a zambé. Si tu payes ton loyer, ton foyer plie sous les factures, mais c'est la dure réalité. On t'a zambé, on t'a zambé. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut être avisé. Et même avisé, dur de pas se faire zambé. Zambé, 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 zambé. Quoi tu fasses, il faut être avisé, sans dramatiser, dur de pas se faire zombé. Zombé, 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 zombé. Elle t'empêche d'aller danser. Dès que t'as le dos tourné, te fait brouter la pelouse. Tu joues au loto, rien ne va plus, les jeux sont faits. Qu'est-ce que tu fais? T'attends toujours le gros lot à l'entrée de la boîte. Tu fais la queue, viens ton tour. Le portier n'aime pas tes sables. Faut que tu fasses demi-tour. Si t'as des enfants, c'est les produits en bâche. Ne prennent pas les sentiments, tu cours même pas, tu nages. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut être avisé. Et même avisé, dur de pas se faire zombé. Zombé, 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 zombé. Dur de pas se faire zombé. Zombé, 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 zombé.
Vous marchez à la drogue, au dopant, à l'alcool?
Non!
Non, non, bien sûr, c'était juste une question. Alors, il y a un autre effet qui est l'effet de
Radio Campus 88.3.
Y va a bailar.
rouge pour la paix, eso es lo que...